Bonsoir, auditeurice de Radio Panique. Tu es bien sur le 105.4 et comme tous les premiers mercredis du mois, les quenouilles sont en direct. Dans le studio ce soir, il y a quenouille Milady, quenouille Maud, quenouille Karine, quenouille Stéphanie et moi-même, quenouille Margot. Et le mot autour duquel on fait la ronde aujourd'hui, c'est estocade. C'est un beau mot tout classe, estocade. Quand je l'ai tiré, j'étais très joyeuse. Ça se prononce avec l'accent du sud de la France, comme brazoucade. Ça fait penser à estacade. Quand j'étais gosse, ma jambe s'est coincée jusqu'au genou entre deux planches de l'estacade. On a eu un mal de chien à la retirer de là. Après ça, pour que j'arrête de pleurer, pour me donner du courage, on m'a offert une petite poupée avec des boucles blondes et une jolie robe. Si mon frère s'était blessé, il aurait sans doute pas pleuré. Ça aurait fait rigoler tout le monde, lui y compris. Il aurait sans doute tout ravalé. Lui, il se faisait mal souvent et il exhibait ses bleus comme des trophées. L'estocade, c'est en tauromachie le coup d'épée porté par le matador pour achever le taureau à l'issue du combat. Une attaque rude et soudaine. Un truc de machisto alors. Un geste de virilité ultime. Le coup d'épée serait-il l'apanage des mâles dominants? Un homme, seul, face à une bête féroce, après que d'autres hommes aient affaibli la bête, armé d'une pique, achève le spectacle avec une chorégraphie millimétrée, dans une posture défiante face à l'animal. Pff, joder, ce monde est-il sérieux? Et si on se le prenait pour nous aujourd'hui ce mot, pour le rouler dans la farine de nos imaginaires et le faire dorer entre nos esprits pailletés et solaires, non? Donner ou porter l'estocade, ça veut dire porter le coup décisif qui démolit quelqu'un, réduit à néant quelque chose. Achever. Si on mettait le coup de grâce au vieux système dont on ne veut plus, au moins pour une heure. Por favor, para el bien de nuestro mundo interior. Si on tuait en symbolique les matadors, les Picasso, les vieux personnages crapuleux de l'histoire. Si on foutait la misère au système monstrueux qui permet aux monstres d'exister. Si on convoquait des potes poètes et des sorcières de cœur pour jouer avec nous à buter les crapules pour de faux. Je sais pas vous, mais moi j'ai envie de sentir couler le sang des idées périmées le long de mes joues, même pas pour rigoler.
Merci Quenouille Margot. Bonsoir tout le monde.
Bonsoir. Bonsoir. Au commencement, il y a une table. Autour de cette table, la famille assemblée s'engage dans des échanges polis, au cours desquels certains sujets seulement peuvent être abordés. Quelqu'un dit quelque chose qui vous pose problème. Vous êtes plus tendu, ça se tend. Entre vous et ça, il est difficile vraiment de faire la différence. Vous réagissez, peut-être en pesant vos mots. Vous expliquez pourquoi, à votre avis, ce qui vient d'être dit pose problème. Et vous avez beau vous exprimer avec calme, vous sentez que vous commencez à vous énerver. Vous reconnaissez, et c'est frustrant, que vous vous laissez énerver par quelqu'un d'énervant. Dire ce que vous pensez, mettre les choses sur la table, ne fait qu'aggraver la situation. Vous avez créé un problème en déclarant problématique ce qui vient d'être dit. Vous devenez le problème que vous avez créé. Sarah Ahmed, féministe rabat-joie et autres sujets obstinés.
Si, déracinant de son cœur le vice qui la domine et avilit sa nature, la classe ouvrière se levait dans sa force terrible. Non pour réclamer les droits de l'homme, qui ne sont que les droits de l'exploitation capitaliste, non pour réclamer le droit au travail, qui n'est que le droit à la misère, mais pour forger une loi d'airain, défendant à tout homme de travailler plus de 3 heures par jour. La terre, la vieille terre, frémissant d'allégresse, sentirait bondir en elle un nouvel univers. Mais comment demander à un prolétariat corrompu par la morale capitaliste une résolution virile ? Comme le Christ, la dolente personnification de l'esclavage antique, les hommes, les femmes, les enfants du prolétariat gravissent péniblement depuis un siècle le dur calvaire de la douleur. Depuis un siècle, le travail forcé brise leurs os, meurtrit leur chair, tenaille leurs nerfs. Depuis un siècle, la faim tord leurs entrailles et hallucine leur cerveau. Ô paresse, prends pitié de notre longue misère. Ô paresse, mère des arts et des nobles vertus, sois le baume des angoisses humaines. Le droit à la paresse de Paul Lafargue.
Assommons les poètes. Devinez ce que fait Sophie ? Un métier pas comme les autres. Astronaute ! Magicienne ! Déménage ! Qu'est-ce que vous apprenez par cœur à l'école ? Des poésies ! Je sais, elle est poésienne ! À part ça. Et à part écrire, vous faites quoi dans la vie ? Chaque fois que la petite dame du rez-de-chaussée m'attrape dans le couloir, invariablement, elle me pose la question fatidique. J'ai beau essayer de l'éviter, elle doit me guetter derrière sa porte. Blouse, bigoudi ou charentaise m'attendent sur un paillasson qui vous regarde en criant en vert « Essuyez vos pieds !» La petite dame me parle de la pluie et du beau temps. Mais toujours, elle trouve le moyen de glisser. Et à part ça, vous faites quoi dans la vie ? Et chaque fois, je pense à cet article de Brigitte Giraud. Être écrivain malgré tout, où elle note combien c'est compliqué pour un écrivain, un poète, d'expliquer ce qu'il fait, comment il vit, d'être ce qu'il est. L'écrivain travaille sur une matière quasi intransmissible. Parce qu'en plus d'écrire, il faut gagner sa vie. Nous avons 2 vies en une, la vraie vie et la vie à écrire. J'aurais pu énumérer à la petite dame tous les métiers que j'ai exercés pour pouvoir continuer à écrire. Femme de ménage, serveuse, plongeuse, animatrice d'une ligne rose, formatrice, aide documentaliste, animatrice de radio, laveuse de flacons d'urine et autres flux dans un laboratoire, technicienne de son, aide ménagère pour personnes âgées, correspondante de presse, et puis le RMI, le RSA, les contrats précaires, les contrats aidés. À présent que je publie, j'anime des ateliers d'écriture dans des écoles, des prisons, des hôpitaux. Je participe à des tables rondes. Je fais des lectures publiques. Je suis intervenante en milieu scolaire sur la poésie contemporaine. Et à part ça, j'essaye d'écrire.
Les pratiques conversationnelles des hommes. 1. Interrompre les femmes. Pour l'étude des interruptions, je me servirai surtout du texte de Wes Zimmerman, qui se trouve dans « Language and Sex » de Tom and Henley. Elle se réfère toujours au modèle de conversation que j'ai décrit précédemment. West et Zimmerman ont opéré une distinction dans les paroles simultanées entre 2 catégories, les chevauchements et les interruptions. Les chevauchements ont lieu à un moment de transition possible. Ils proviennent d'une erreur de réglage entre les tours, comme par exemple quand le nouveau locuteur, pour éviter un trou, commence son énoncé aussi près que possible de la fin de l'énoncé du locuteur précédent. West et Zimmerman considèrent donc le chevauchement comme une erreur du système lui-même. La seconde catégorie qui va nous intéresser davantage est celle des interruptions proprement dites. Elle consiste en des intrusions plus profondes dans la structure interne de l'énoncé de la locutrice, du locuteur qui peut ne pas avoir fini du tout son tour. Elles sont donc des violations des procédures de tour et n'ont pas de fondement dans le système. West et Zimmerman disent qu'elles montrent un réel déni d'égalité d'accès à l'espace de parole. J'en viens maintenant à l'étude proprement dite portant sur des dialogues enregistrés dans des lieux publics d'une communauté universitaire. Nous avons 20 couples non mixtes, 10 couples femmes-femmes et 10 couples hommes-hommes, et 11 couples mixtes, composés exclusivement d'étudiants-étudiantes, à une exception près, où la femme est assistante. Les sujets de conversation varient depuis les échanges de politesse jusqu'à des sujets plus intimes, selon que ces personnes se rencontrent pour la première fois ou bien se connaissent davantage. Alors qu'elles dénombrent 22 chevauchements et 7 interruptions dans les dialogues non mixtes, elles trouvent 9 chevauchements et 48 interruptions dans les dialogues mixtes. On peut faire plusieurs remarques sur ces résultats. Les chevauchements sont plus fréquents que les interruptions dans les dialogues non mixtes que dans les dialogues mixtes. Par contre, les interruptions sont beaucoup plus fréquentes en mixité que les chevauchements. Seuls 3 des 10 dialogues non mixtes comportent des interruptions, qui sont de plus réparties assez symétriquement entre les interlocutrices et interlocuteurs, alors que seul un dialogue mixte sur les 11 en est indemne. Les interrupteurs apparaissent donc comme systématiques dans les dialogues mixtes. La répartition des tâches entre les femmes et les hommes dans le travail de la conversation, étude réalisée en 1997 par Corinne Monet dans le cadre des études de genre à Genève.
Le désir de punir. C'est a posteriori qu'on justifie le châtiment, car avant la raison, le désir. Résultant d'une émotion violente, en général la colère, le châtiment passe pour être administré froidement. Mais au cœur de toute punition, le plaisir de tenir quelqu'un en son pouvoir, de montrer qui est le plus fort. À tort ou à raison, le punisseur, fut-il un tueur en série, a la ferme assurance d'être du bon côté, du côté de la loi, de l'ordre, du bon droit. On ne veut jamais le coupable, mais un coupable. Il n'est pas nécessaire qu'il soit l'auteur d'un forfait, une chèvre fera aussi bien l'affaire. C'est magique. Les partisans du châtiment font tous comme si, par une sorte d'heureuse fatalité, les coupables étaient punis et les justes récompensés. Or, les erreurs judiciaires sont constantes, particulièrement en comparution immédiate, où l'on juge en toute hâte. Mais il faut que les dégâts soient spectaculaires. Tête tombée à tort, une vie pour rien derrière les barreaux, etc. Pour qu'elles émeuvent qui que ce soit. Les criminologues et les policiers le savent pertinemment, mais cela excite le monde qu'on a arrêté le coupable, lui ou un autre. On va pouvoir le punir, ce qui signifie se venger. Vengeance, dédommagement moral de l'offensé par la punition de l'offenseur. Il faut noter cependant que le désir de vengeance n'est pas naturel, il est le fruit d'une culture fondée par exemple sur un certain code de l'honneur. Il y entre une forme de devoir, de soumission à la loi de son milieu. Toute vendetta est socialisée, codifiée, ritualisée. Depuis l'Antiquité, la justice d'État est censée remplacer les vengeances privées. Échec sur toute la ligne. Le châtiment pénal engendre un besoin de se venger qui se retourne contre des tiers. L'homme humilié bat sa femme, mission ad hoc dont les membres seraient proches des personnes impliquées dans le conflit. Il me manque une page. Il me manque même carrément la suite de ma...
Voilà. Et ben, du coup, ça sera vraiment le début de pourquoi faudrait-il punir sur l'abolition du système pénal. Et je voudrais juste aussi mentionner que Sourour Abouda, qui est une femme qui est morte au commissariat rue Royale, son fils Alan de 19 ans a besoin de soutien, et j'en profite pour parler de la notion de réparation, pour renvoyer sur la page Facebook des quenouilles pour qu'on puisse mettre l'information pour le comité de soutien. Et je crois qu'autour de cette table, évidemment, on est dans cette quête de justice et vérité pour Sourour Abouda, dont sa vie a été salie. On l'a évidemment mise dans la position de la victime qui a tous les torts et les policiers jamais. Donc l'instruction est en cours, mais on espère que la famille obtiendra justice et vérité. Voilà, on avait fait un petit tour de certaines revues et fascicules qui sont disponibles sur InfoKiosque. On vous les mettra sur la page Facebook, comme ça on pourra aller plus loin, y compris terminer le début que j'avais. Commencer. Ça va. Merci. Margot, tu nous mets un petit son.
And who by fire, who by water, who in the sunshine, who in the nighttime, by high ordeal, who
by common trial? Who in your merry, merry month of May? Who by very slow decay? And who shall I say is calling? And who in a lonely slip? Who by barbiturate? Who in these realms of love? Who by something blunt? Who by avalanche? Who by powder? Who for his greed? Who for his hunger? And who shall I say is calling? And who by brave assent? Who by accident? Who in solitude? Who in this mirror? Who by his lady's command? Who by his own hand? Who in mortal chains? Who in power? And who shall I say is calling?
What should be the target of our jokes at the moment? Our obsession with reputation. We're obsessed with it. We think reputation is more important than anything else, including humanity. And do you know who takes the mantle of this myopic adulation of reputation? Celebrities and comedians are not immune. They're all cut from the same cloth. Donald Trump, Pablo Picasso, Harvey Weinstein, Bill Cosby, Woody Allen, Roman Polanski. These men are not exceptions, they are the rule. And they are not individuals, they are our stories. And the moral of our story is we don't give a shit. We don't give a fuck about women or children. We only care about a man's reputation. What about his humanity? These men control our stories. And yet they have a diminishing connection to their own humanity. And we don't seem to mind so long as they get to hold on to their precious reputation. Fuck reputation. Hindsight is a gift. Stop wasting my time. Look, I am angry. I apologize. I do. I apologize. I know there's a few people in the room are going, ah, look, I think she's lost control of the tension. That's correct. I did a bit there. So I'm not very experienced in you know, controlling anger. It's not my place to be angry on a comedy stage. I'm supposed to be doing self-deprecating humour. People feel safer when men do the angry comedy. They're the kings of the genre. When I do it, I'm just a miserable lesbian ruining all the fun on the banter. When men do it, heroes of free speech.
Il y a quelques jours, j'ai découvert les spectacles de Anna Gadsby, l'humoriste australienne qu'on vient d'entendre. Et ceux qui ont été diffusés depuis 2-3 ans internationalement, puisqu'en fait, elle en a fait plein d'autres avant. C'est ma colocataire Zoé qui m'a dit de regarder. Ça faisait déjà quelques fois que le nom de Nadette, son spectacle titillait mes oreilles. Et vous savez quoi, c'est vraiment fantastique, je suis fan.
En plus,
c'est
incroyable. En plus, ouais.
Ça m'a fait rire et pleurer en même temps. Enfin, en fait, surtout pleurer, mais du bon pleur. Et je croyais que j'aimais pas les spectacles comiques et le stand-up, moi, mais en fait, c'est juste que j'avais pas vu celui-là. C'est un spectacle qui décortique les spectacles comiques et qui dégomme le patriarcat au passage. Très beau. Dans son autre spectacle disponible sur cette fameuse plateforme qui fonctionne même sur les ordi obsolètes et dont les mots de passe se refilent comme les rhumes en février, il y a un autre spectacle qui s'appelle Douglas, le nom de son chien, et elle parle d'autisme. C'est super poilant, enfin entre autres, parce que c'est aussi très beau. Et elle y fait une conférence sur l'histoire de l'art, comme on aimerait en voir dans les écoles. Fantastique, trop courte. Et notamment, elle dégomme Picasso dans son spectacle, qu'elle appelle d'ailleurs Picasso. Et je trouvais que ça valait le coup de rappeler que le plus grand artiste du XXe siècle était surtout une crapule de première catégorie. Est-ce que vous saviez, vous, les quenouilles, que c'était une crapule?
Ouais.
Je me disais qu'on l'estocaderait bien, au passage, ce petit minotaure de pacotille.
Ouais. À quoi ? Je croyais que t'allais dire autre chose, en fait.
Bah non, oui, en fait, Zoé m'a quand même...
Je suis ce que tu dis, excuse-moi, Margot, mais...
Eh ben, dans la cage d'escalier, parce qu'on parle souvent dans les cages d'escalier, entre deux portes et dans les couloirs, dans ma maison. Souvent, c'est là qu'on a les grandes conversations. Et elle m'a dit qu'il fallait pas oublier que le véritable responsable, en fait, c'est pas Picasso. C'est la fabrique des monstres, c'est le système oppressif qui permet aux monstres d'exister et de rester dans l'histoire. Et c'est le système qui encense ces fameux génies qui détruisent tout sur leur passage. Voilà.
Ouais, après, quand c'est un des artistes les mieux payés par le commerce de l'art, je me demande si le monstre a pas un peu profité de cette fabrique des monstres lui-même et qu'il en a pas bien profité pour être lui-même une belle fabrique à lui-même. Je crois qu'il était fier de dire qu'il fournissait une œuvre d'art par jour, ce qui est aussi un rapport à la création ou à sa possibilité de reproduction éternelle, un peu compliqué pour moi. Après, tant mieux pour lui peut-être. Ben moi, en fait, juste rapidement, enfin pas rapidement, mais je vais lire un extrait de mail que j'ai envoyé. On m'a contacté pour une super proposition au départ. Enfin, c'est toujours ça. C'est resté une très chouette proposition. C'est qu'il y a une exposition Picasso. Je crois que c'est à Beaux-Arts ou au Beaux-Arts. Je sais pas lequel des deux. Enfin bref. Et il y avait cette idée que des personnes pouvaient venir le contredire ou en tout cas amener un regard biaisé ou pas, volontaire ou pas, sur Picasso comme maître, comme tu l'as dit, comme génie, comme etc. Donc l'idée, c'était un peu de lui dégommer la gueule, alias estocade. Mais on reste quand même dans un contexte institutionnel. Et voilà. Et moi, bah, Picasso, j'ai pas beaucoup d'amour pour lui, jamais eu. Mais évidemment, à force d'aller creuser dans les mécanismes antisexistes et antiracistes, on découvre que certains parfois cumulent tous les mandats. Et voilà ce que j'ai répondu quand on m'a invité pour faire la rabat-joie de service. J'aurais aimé en effet déconstruire ou plutôt augmenter en pendre son œuvre de ses pratiques en détruisant, en dégommant son aura mascu à Picasso. J'aurais pu par exemple écrire un texte déconstruisant la pratique de la muse femme fétiche, sachant que de nombreuses femmes autour de lui ont pratiqué à ses côtés sans être connues. Comme plus qu'inspiratrice érotico-esthétique, il disait de Gaïa par exemple que c'était sa meilleure pute, on pourrait y revenir. Quand j'ai reçu l'invitation, c'est aussi une autre idée qui m'est venue de proposer un texte à plusieurs mains. J'ai contacté Joël Sambi, Jia Brassard et Haru Dizazi, qui sont des autrices, militantes, journalistes, historiennes, africaines et afro-descendantes. Alors évidemment, pour cette notion de parité nord-sud, qu'elle puisse être entendue aussi ces endroits-là, parce que les pratiques extractivistes sont très constantes. Mais Picasso aussi, c'était un bon extractiviste, puisqu'il a, comme Dubuffet avant ou d'autres, ou Matisse ou quoi, ils ont vraiment été aussi chercher l'art dit africain, entre guillemets, en exotisant, en expiant, en rabaissant aussi l'art africain comme un art autre, parfois naïf. Ça fait partie aussi du lexique que Picasso employait, qui bien sûr fait partie dans un marché de l'art où on rappelle dans les années 50, autour d'œuvres de Picasso, qu'on a en face à une toile de Picasso un rappel de l'innocence sauvage, sont les termes de l'époque, ou tribale. Voilà, donc les Pablo, les Jean, les André, les etc. ont aussi participé à des trafics d'œuvres. Donc ils sont soi-disant venus collectionneurs. Ils ont créé des fondations pour obtenir des fonds publics pour pouvoir soi-disant, comme au musée Picasso, exposer des œuvres dont les sources n'ont pas non plus été mentionnées. Et on sait très bien ce qui se passe quand les spoliations sont dans un système colonial. Et donc moi, la Picasso, comme continuum colonial, comme appropriation des sens et des signes, des cultes et des cultures, j'avais bien envie de lui casser la gueule. Voilà, j'ai pas été finalement là, une des personnes qui a pu manifester cet anti-manifeste contre Picasso. Mais je pense que si vous cherchez sur Google, vous verrez les personnes qui ont pratiqué quelque chose que je n'ai pas écouté. Donc je vais ni critiquer ni rien dire. Je vais juste dire que ça a eu lieu et qu'on peut aller le chercher en allant voir ce qui a été fait autour de cette expo-là, que je n'irai évidemment pas voir. Ça mériterait quelques graffitis quand même, tout ça.
Et si vous avez envie d'écouter des petits trucs qui parlent de Picasso, moi j'ai écouté un super podcast qui s'appelle Est-ce que Vénus s'épilait la chatte, c'est
oui.
ça
mmh.
Voilà, ça parle de ça. C'est très instructif.
Cool. On va mettre ça sur la page.
Ok.
Il a pensé que c'était un gars relou. Alors il l'a recadré. En vrai, c'était quand même chou. Alors j'ai fermé ma gueule.
À cette soirée, il m'a expliqué son point de vue et son passé. ses codes et sa culture, que ça arrive des erreurs de parcours, et c'est vrai, c'est important d'être à l'écoute. Alors ce soir-là, j'ai pas remis son comportement en doute, alors j'ai fermé ma gueule.
À skip la jalousie, c'est Mimi. Crise de colère pour vérifier les messages sur mon phone. Et même tellement que moi aussi, je dois lui prouver que sans lui, je suis à faune. Lui prouver qu'il y a que lui qui occupe mes nuits. Alors j'ai fermé ma gueule. Quand il a crié soudainement, je me suis dit, c'est impulsif. Bah ça arrive, les débordements, il a pas voulu être agressif. Alors j'ai fermé ma gueule.
C'est vrai que parfois on s'embête. Quand dans nos sons on dénonce le harcèlement dans Bruxelles, mais que dans nos songes il y a les séquelles d'humiliation pas si lointaine, née sous la coupe d'un compagnon en réaction passible d'une peine, mais je me suis dit à l'aise. En vrai ailleurs il y a plus grave, il y a plus gore. Alors j'ai fermé ma gueule.
Mes poils étaient encore blonds sous mes bras. En vrai, j'étais flattée qu'il s'intéresse à moi. Pas de question quand il me toucha, alors j'ai fermé ma gueule.
Tu milites chaque jour dans ton art et dans ta rue pour ne plus que les violences soient tues. T'as honte quand tu constates que parfois tu satures. D'être là à te répéter dans le vide, d'être là, c'est des actions pacifiques. Balance ton port, balance ton bar, en balade dans le parc ou sur une place. Ouais. Parfois tu satures qu'il y ait si peu de violence en retour. Pourtant, petite, t'étais plus douce absolument, puis tout à coup, à tes 9 ans, t'as été forcée d'assimiler ce que c'est qu'un abus sexuel. Mais j'étais sensible, j'étais jeune, et puis il y a eu prescription, alors j'ai fermé ma gueule.
Je suis bourrée quand il m'embrasse. Je titube, c'est pas l'éclate. Mais 2 heures avant, je le draguais, c'était pas des blagues. Je me retrouve en levrette, en nausée, mais je veux pas perdre la face. Alors j'ai fermé ma gueule.
Puis, quand ce combi de flic passe et voit ton mec, il te foutrait un beau coup de boule. Mais que de base de délit de faciès, ils sont déjà coupables. Que toi, là, dans tes combats, ton militantisme, tu te paumes. En plus, ce mec, il a une fille, elle a 7 ans, et il tient 7 mots. Alors quand 6 mois après, bah, t'es convoqué pour témoigner de la scène présumée, t'assures qu'il s'était rien passé. Que juste les flics, ils étaient racistes, puis en soi, c'est aussi la vérité. Juste le coup, j'ai esquivé d'en parler. Alors ouais, ce coup-ci, pour sa fille de ma dignité, j'ai fait le deuil, alors j'ai fermé ma gueule.
Trouver sa moitié, c'est ça l'amour. Main de fer dans un gant de velours. Il y a des coups, il y a des coups, il y a des coups, et le sang qui gicle par à coup. La tendresse, ça paraît loin tout à coup, mais le couteau sur le cou, alors j'ai fermé ma gueule. Sinon, je pense aux courses.
Au loyer.
Au rendez-vous.
À l'organe d'agenda.
Au solus pour améliorer le couple.
À nos dates d'anif.
À vérifier ses
mots. À retrouver ses mots de passe.
À mes activités, à ses activités.
À inviter ses amis.
À innover au lit.
Ouais, à ses horaires.
À mes horaires, nos horaires.
Ouais, lui, il pense... Bon, en tout cas, pas mal.
Non, il est juste un peu distrait.
Alors j'ai fermé ma gueule.
J'ai trébuché, il n'a pas fait exprès de me faire tomber.
En fait, il y avait full message de club sur son tel, mais je me suis dit que il est sociable, donc j'ai fermé ma gueule. En plus, il m'a affirmé à façon que j'étais la seule quand j'étais là, c'est de ses gueules, j'ai fermé ma gueule. Pourtant, j'avais honte, il faisait des scènes, on s'est fait rendre au pot de mail, mais faut que je me garder la face pour pas qu'il collecte ton vol, j'ai fermé ma gueule.
Alors, j'ai fermé ma gueule,
meuf, sur son tel.
J'ai trébuché, il n'a pas fait exprès de me faire tomber.
En plus, il m'a affirmé à
façon
quand j'étais la seule,
quand j'étais là, c'est de ses gueules, j'ai fermé ma gueule. J'avais rien nos différents comportements, mais il faut que je me chill, faut que je cesse de me prendre la tête.
Alors j'ai fermé ma gueule. Pourtant, c'est vrai qu'on ouvre bien notre gueule sur scène.
Ouais. On nous appelle badass en open mic.
Mais est-ce qu'on est sûr qu'au prochain bad, on fermera pas notre gueule?
Bah donc voilà, tout à l'heure, je suis allée voir ZNT, donc Zou ZTA... À la Balsamine, elles ont présenté une partie de leur spectacle qui est en construction, qui s'appelle Bitume. Donc c'est un spectacle pour lequel pour l'instant elles sont en train de travailler sur la conception et elles sont en résidence à l'espace MAG et elles le proposeront à Avignon en plein air, donc en forme courte. Et finalement, qu'est-ce que c'est que ce spectacle? C'est le résultat de beaucoup d'années de militance, mais aussi de galères artistiques. Mais deux filles très chouettes et très drôles, qui ont plein de talents et qui ferment pas leur gueule. Et donc du coup, très très sympa, très chouette spectacle. Et on retrouve en fait dans dans ce qu'elles proposent, bah, des extraits de leur bootleg, parce que toutes les deux, elles ont écrit des bootlegs seules. Et là, il y en a un qui sort chez Malmström également, comme les deux autres. C'est un bootleg où elles ont écrit à deux, donc c'est aussi donc des textes issus du spectacle qu'elles proposeront bientôt. Je pense que ce sera à la rentrée en septembre. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre sur mon petit copion par rapport à elle? Je pense que j'ai tout dit. C'est un spectacle hip-hop et rap, très engagé et franchement qui vaut la peine. Elles sont marrantes et en même temps elles sont hyper touchantes et il y a un vrai message adressé aux mecs, quoi, surtout aux sales mecs. Harceleur, gros lourd. Enfin voilà, franchement, voilà, moi j'aime beaucoup ces filles. Je les avais découvertes lors d'un jury. Et en fait, moi je suis pas une pro du slam ou tout ça, mais voilà, ça m'avait beaucoup parlé. Et voilà, ces filles interviennent aussi en classe. Et l'une des deux est prof de français. Donc là, c'est juste dingue d'avoir une de ces deux meufs comme prof de français. Ça doit être trop l'éclate. Et en tout cas, voilà, un spectacle à suivre et ouais. Des filles à suivre. Et on mettra évidemment sur la page Facebook les références des trois bouclets en question. Ouais. Il y a Sale Meuf, il y a Chagrin des Codes et il y a Bitume. Donc c'est voilà, le dernier en date qui sort le 17 février, je pense. Et pour la sortie, elles sont dans un magasin streetwear avec des cagoules. Et donc il faut venir avec une cagoule et elles vont faire la promotion de leur bootleg et voilà, ça risque d'être bien chaud et bien ambiancé, quoi.
Avec la cagoule, clairement, ça va être chaud. Ouais, je sais pas si vous vous souvenez des cagoules, mais enfin c'est quand même un truc entre le viscose, l'acrylique et
la laine, tu peux le dire, ouais, qui gratte.
Ouais, ouais. Bah qui tu tient vois super chaud, ouais. Bah ce qui est cool avec ZNT en effet, c'est qu'elles sont à la fois dans le slam et dans le rap et qu'il y a aussi du son derrière en fait. Là, il y a le travail du corps et de la voix parce qu'elles sont aussi très mobiles, très énergisante sur scène, mais elle travaille aussi le son, le beat, etc. Donc elle croise en effet le slam et le rap avec des formes aussi très longues. Là, ce texte-là, mm-hmm. il est assez long, mais mm-hmm. il y a des textes encore plus longs. Donc t'as vraiment le temps de rentrer dans leur rythme, dans leur flow. Et elles sont aussi très différentes l'une et l'autre, je trouve. Mm-hmm. Enfin, il y a quelque chose dans leur tempérament qui est aussi super différent, même si quand elles font alliance, c'est trop bien, quoi. Ouais. Donc c'est cool, ouais. Et elles font partie du Poetic Gang. Qui est un collectif de plusieurs poétesses en Belgique francophone et néerlandophone sur cette idée d'écrire ensemble et de se rencontrer pour sortir un peu des effets de concurrence que justement les mécanismes dits d'art et de culture et ou d'ateliers d'écriture, etc. Enfin, toutes les pratiques autour de l'écriture qui mettent souvent les poétesses pendant un moment dans la lumière. Et du coup, il y a celles-là qui existent et puis les autres, voilà, soit elles sont déjà trop vieilles, trop machin sorties du truc. Soit, en effet, il y a un rapport de concurrence que malgré nous, malgré nos valeurs féministes ou nos valeurs, entre guillemets, il y a de la place pour tout le monde. On arrive quand même à rentrer en concurrence parce qu'on est a priori dans une précarité spécifique en tant que meuf et en tant qu'artiste et qu'on doit en effet faire des trucs à côté et que le territoire belge est assez petit et donc on s'est un peu toutes réunies, donc ZDT, mais il y a d'autres meufs du côté néerlandophone aussi. On s'est rencontrées pendant un week-end au mois d'août pour essayer d'écrire ensemble une espèce de bonne pratique et puis de se croiser aussi pour mettre des corps, etc. Et on ne devait pas être d'accord, on veut juste dire tiens, on est ensemble et on peut aller vers quelque chose, quoi. Donc il y aura des suites du Poetic Gang dans les mois à venir et une publication aussi pour qu'on se dise comment on veut fonctionner, y compris une charte des une notion de barème aussi sur quoi être payé. Après, on peut accepter d'être. Alors, c'est pas que de l'argent, mais on sait très bien que c'est aussi de l'argent et que c'est difficile de faire que de ça, de vivre que de ça. Et donc, on a.
Mais ça fait sens et le lien avec tu vois l'extrait que j'ai lu là en début d'émission
de Sophie G. Lucas. Ouais.
Assommons les poètes. Ça tombe juste bien.
Ouais, ouais. Bah, en fait, ces pratiques-là, enfin, la notion de poétesse ou de slameuse ou de rappeuse, enfin, même si c'est pas des secteurs identifiés de la même manière, mais c'est clairement un souci, quoi. Et donc, quand on s'est rencontrés les unes les autres, quand on commence ou quand on est déjà là depuis un petit temps, on attend de nous, en fait, qu'on fasse ça par la vocation. Enfin, c'est dans ça, dans l'associatif en général et dans l'artistique en général. Mais en gros, comme si passion pouvait être un rapport divin, quoi. C'est-à-dire qu'on fait ça pour le bien-être de l'humanité, mais pas pour nous-mêmes, quoi. Et ouais, enfin c'est du coup ça nous renforce aussi de nous rencontrer et dire en fait on peut lutter avec ça comme le font les auteurs et les autrices à un moment où enfin voilà. C'est un métier en soi en fait. Comme animatrice d'atelier d'écriture, mm-hmm. c'est un métier mm-hmm. en soi et que voilà quoi. Donc ouais, trop bien, les meufs à suivre quoi.
Oui, en tout cas, il se passe toujours quelque chose sur leur page Instagram.
À fond, elles sont hyper
elles bah, arrivent en mobilette sur scène
ouais.
aussi.
Oui oui. Oui. Génération Z quoi. Z02 déjà je pense. Ouais. Margot, tu nous avais mis quoi? Tu nous avais mis PJ Harvey.
Ouais, tout à l'heure, on a écouté Who by Fire de PJ Harvey, qui est, ouais. Qui est un morceau qui a été écrit par Leonard Cohen, par ailleurs.
Ah ah, ouais. Trop bien.
Venez, on voulait discuter encore ou...
Ça fait du coup.
Ouais, venez,
on a réussi à discuter.
De comment la concurrence entre meufs, c'était un mythe et en fait, on peut le détruire.
Si bah non, mais c'est quoi ces chevauchements ou interruptions? Il faut voir comment. Est-ce qu'on se chevauche ou est-ce qu'on s'interrompt?
Viens, on se chevauche et on écoute de la musique.
Ouais, tu mets ça et après on sera avec Maud alors.
Yes.
Ça va?
Je les reconnais, quelque chose dans leur regard se tait. Chaque femme que tu as laissée seule sur le quai recevra de ma part un bouquet.
Je voulais vous parler de Sanit Belair. Mais qui était Sanit Belair? Voici quelques éléments de réponse avec une archive audiovisuelle dont vous n'entendrez que le son. Laissez-moi vous dire quand même qu'au début, il y a des mots sanglants qui surgissent d'un fond noir comme on reviendrait de l'au-delà. Et bientôt, vous comprendrez le lien. Alors attention, vous avez eu un aperçu de une toute petite seconde à l'instant.
Un effet
spécial. Ça commence un peu fort au niveau sonore.
corps altier, le regard dur. En parfait uniforme du soldat qu'elle était, c'est le lieutenant Sanit Belair, quelque part en Haïti, en pleine guerre d'indépendance en 1802. Une période particulièrement sanglante et décisive de l'histoire du pays. D'un côté, l'armée française, 22 000 hommes, dirigée par le propre beau-frère de Napoléon. De l'autre, 7 000 soldats haïtiens sous la houlette du général Toussaint Louverture. Sanit, officier de l'armée, marié à Charles Belair, également lieutenant et proche de Toussaint et sur tous les fronts.
Pour avoir accédé à ce grade, il faut qu'elle ait justement gravi les échelons, parce que je ne pense pas qu'on lui ait fait un cadeau.
Ancienne esclave affranchie, animée, dit-on, d'une haine farouche de l'ennemi, Sanit Belair s'illustre dans des pitoyables batailles dans les Mornes. Celle de la Crête à Pierrot, dans le centre du pays, devait lui être fatale.
Au cours de cette bataille de la Crête à Pierrot, ces deux lieutenants, Charles et Sanit Belair, ont été faits prisonniers. Et lorsqu'on a voulu la tuer parce qu'elle était femme, on a voulu lui bander les yeux, elle a refusé, elle a voulu mourir en homme, comme un homme, et elle a été fusillée comme son mari.
Comme Cécile Fatiman, Sanit Belair ne figure ni au Panthéon national, ni sur les places publiques. Elles ont bien involontairement cédé la place.
Alors, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai l'impression quand même que, un, le technicien de l'époque s'est quand même bien marré sur ce billet monté, et que quand même, à la fin du billet, il a quand même voulu terminer par une note musicale positive. Pourquoi ? Je ne sais pas. En tout cas, on y voyait, et vous pouvez le retrouver sur Internet, des images des statues des héros de la Révolution haïtienne sur le Champ de Mars de Port-au-Prince. Jean-Jacques Dessalines, Henri Christophe, Toussaint Louverture et Alexandre Pétion. Comme évoqué à l'instant, aucune femme. Maintenant, nous allons entendre la principale intéressée. Elle nous parle du royaume des morts, où elle erre depuis plus de 220 ans. Elle vient de raconter à quel point la lutte a été difficile et sanglante, et les siècles de solitude.
Et aujourd'hui, figurez-vous, ceux pour qui je me battais contre ces ombres, ceux pour qui je tentais de creuser une brèche vers la dignité, ils m'ont tous oublié. Là-bas, les historiens, les biographes, ils font trembler la page pour les hommes, leurs héros. Là-bas, les livres d'histoire ont du mal à reconnaître mon visage. Et paraît que de jour en jour, plus épaisse devient la poussière qui couronne mon image. Là-bas, le Panthéon se dresse sans mon ombre. Aucune place pour mon étoile au patrimoine. Là-bas, Champ de Mars, quartier général des héros.
Alors, c'était donc la voix de Sanit Belair. Je crois que j'ai eu un petit problème technique quand j'ai coupé un peu tôt. Mais donc c'est la voix de la comédienne Sacha Anka Anacassis qui est donc dans l'opéra Poussière, écrit par Jean d'Amérique et mis en voix pour le Festival d'Avignon. Alors dans cet opéra, Sanit Belair demande un visa pour la vie à l'ambassade des ossements pour réparer elle-même cet oubli des vivants. D'ailleurs, en Haïti, en 2016, on l'a vu apparaître sur les billets de 10 gourdes, la monnaie haïtienne. Bon, c'est vraiment le plus petit billet. Après, c'est des pièces. Mais bon, finalement, après un parcours de la combattante auprès de l'administration de l'au-delà, c'est loin des circuits officiels, sur les réseaux sociaux, que Sanit Belair, revenue à la vie, se bat encore et toujours contre la poussière de l'oubli. Et ça n'a pas échappé à la presse.
Sur la télévision nationale, dans le journal du soir, la présentatrice.
Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, bonsoir et bienvenue dans le journal dont vous rêvez. À la une de l'actualité, une énigmatique affaire. La toile se chauffe encore une fois, nos vies aussi. Un nouveau phénomène est en train de gagner les réseaux sociaux avec une vitesse foudroyante. La rue en parle déjà, l'ombre d'une révolte rôde autour de nous.
Une activiste politique qui se réclame d'être Sanit Belair a lancé depuis hier matin sur Twitter...
A lancé depuis hier matin sur Twitter un hashtag, hashtag héroïne en colère. Donc Sanit Belair bouscule tous les réseaux et tente comme ça de ne pas se faire oublier via la voix de la comédienne Wilda Philippe. Toujours dans la pièce Opéra Poussière de Jean d'Amérique. Pour en savoir plus, car j'ai eu la main un peu lourde sur les extraits sonores, vous pouvez retrouver toute cette pièce sur YouTube. Mais surtout, n'oubliez pas de vous abonner au compte Twitter de Sanit Belair. Mmh. Car oui, elle a un compte Twitter. Alors, elle ne poste pas tout le temps. Elle ne poste pas beaucoup. Mais il faut dire que les visas pour la vie sont de plus en plus difficiles à obtenir en Haïti.
Merci Maud. Est-ce que tu sais comment Jean et d'Amérique et les autres personnes qui sont dans la quête de la remise en lumière ou en mémoire, etc., d'où viennent les informations, quelles traces, tu vois, comment ça s'est passé, puisqu'a priori...
Alors, je sais pas. Alors, je pense qu'il y a quand même eu ces dernières décennies des travaux qui ont été réalisés autour justement des figures oubliées de la Révolution haïtienne, donc principalement les femmes, évidemment. Je pense qu'il y avait quand même des historiens haïtiens qui avaient travaillé sur des biographies, mais sans doute qu'après, ils n'ont pas été publiés.
C'est plus un effacement.
Ça n'a pas été à ce point connu. Alors après, ce qui est très marquant en Haïti, c'est que vraiment, les héros de la Révolution jusqu'à aujourd'hui sont extrêmement présents dans la vie quotidienne. Dans l'imaginaire collectif, c'est vraiment des références extrêmement importantes. Et voilà, Sanit Belair beaucoup moins. Mais c'est vrai que ça a beaucoup changé par le travail de Jean d'Amérique, par le travail de Gaëlle Bien-Aimé, qui est une comédienne, dramaturge, autrice, qui a en plus une école de théâtre. Donc elle passe aussi beaucoup de choses. Elles ont créé un podcast en créole qui s'appelle, si je me rappelle bien, Neges Dougan. Donc c'est vraiment les femmes fortes, un peu à la Sanit Belair. Elles parlent notamment de Sanit Belair dans leurs travaux. Et donc, je pense que c'est en train de bouger. Mais c'est vrai que c'est bien que quelqu'un comme Jean se soit saisi du portrait de Sanit Belair. Maintenant, j'ai l'impression que le problème, c'est que les héros sont connus parce qu'ils sont au programme scolaire. Ouais. Je ne suis vraiment pas sûre que Sanit Belair soit au programme scolaire au jour d'aujourd'hui, ou que si elle y figure, elle ne soit pas juste là comme une mention peut-être qui passe assez vite.
Merci Maud. On continue les meufs?
Oui.
Il y a que nous et Karine qui va nous lire un texte en toute délicatesse. T'es prête?
Je suis prête. Toutes nos larmes contenues ne coulent pas en nous, et même si elles coulaient, il est des feux qu'elles ne sauraient éteindre. Le regard tourné au loin, vers l'enfance, vers le petit garçon prostré dans l'encadrement de la porte, les yeux figés sur le monstre, une braise sur mon cœur se réveille. Je voudrais lui mentir que ce n'est qu'un rêve, un mauvais rêve qui ne peut pas exister en vrai. Hélas, on dissimule mal la vérité aux enfants. Ils en sont si avides. Adultes, ces vérités se transformeront en secrets, enfouis derrière des cœurs rougis par la douleur. Alors oui, il existe bien ton monstre, celui qui fait du mal à ta mère, qui hurle qu'il va la tuer. Celui-là même qui te fait te recroqueviller en fœtus sous les coups de ceinturon, pour mieux les supporter. Silencieux pour lui refuser le plaisir de ta douleur. Sur le chemin de l'école, sous tes habits mal ajustés dans la précipitation, tes lézards te font encore mal, elles ne te quittent plus, comme une seconde peau qui te tient chaud et que tu habites tout seul, en silence, en secret. La peur t'accompagne, comme une ombre. Je pose les yeux doucement sur le petit garçon dans l'encadrement de la porte qui regarde sa maman. Il voudrait la secourir, se transformer en un de ces héros qu'il ne connaît pas encore et qui permet que les histoires se finissent bien. On ne lui en a pas raconté. Dans ces temps de silence, on s'endort avec ses pleurs. Et puis, il y a la photo, celle qu'il faudrait effacer de sa mémoire. Celle d'une mort qui n'aurait jamais dû avoir lieu. Celle qui fait naître des orphelins. La pièce est en désordre. Sur la table, la vaisselle brisée dit le tumulte des cris, des coups échangés. Les murs au jaune passé, le lino gris au sol sont tachés de sang séché, noir. Un couteau de cuisine n'est plus à sa place dans le tiroir du meuble en formica. Sur la gazinière à bois, le repas du soir attend d'être servi. Il mijotera encore longtemps. Presque sans bruit, indifférent à la scène qui se déroule. La vieille lampe de cuisine coiffée de son chapeau conique en métal, pendue à son contrepoids en porcelaine par un fil torsadé en tissu, jette son cercle de lumière criarde sur la scène, tout en préservant une part d'ombre salutaire au mur maculé. La porte de derrière, celle qui va vers la cour intérieure de la maison, est restée grande ouverte. C'est par cette porte aux vitres maintes fois brisées que l'on fuit. Elle est bordée par un petit couloir. Elle est bordée par un petit couloir avec une verrière, puis donne directement par la droite sur une volée d'escalier en pierre. Il faut encore actionner le lourd loquet rouillé de la porte en bois aux panneaux rongés par le temps pour se retrouver à l'abri, dans les ruelles du village. Le chemin est un poussé de gouttes de sang. Il fait froid. Je pose les yeux délicatement sur le petit garçon dans l'encadrement de la porte. L'atmosphère est étrangement calme. Je voudrais tellement qu'il garde fermé les siens. Il est déjà trop tard. Comme un sténopée, il a laissé passer la lumière et l'image inversée du corps sans vie est venue imprimer sa rétine, projetée sur toute la paroi intérieure de son corps à lui. Indélébile, tout un album photo défile maintenant dans sa tête, vient habiter la scène et redire la chronique d'une violence ordinaire, quotidienne, à chaque jour imbibée d'alcool, à chaque nuit imprégnée de bleu. Une braise posée vive sur son cœur qu'il n'aura de cesse d'éteindre, mais sur laquelle la vie viendra souffler. Une braise incandescente sur laquelle les Noëls sans sapin, les anniversaires sans gâteau, les dimanches d'hiver sans gouffre. Et tous les jours, sans le regard d'une mère, souffle insidieusement. Toute une stratégie de l'enfant se met alors en mouvement. Il s'agit d'éviter le vent, ne plus écouter, ne plus regarder, ne plus sortir parfois, sans jamais y parvenir vraiment. Il faut l'abriter, cette braise, la protéger de tout ce qui pourrait venir l'attiser, l'enfermer au plus profond de soi, bien caché le plus longtemps possible. Jusqu'à découvrir qu'il est vain de tenter d'échapper à tout ce qui nous ramène au souvenir d'une amère. Voilà, je vais m'arrêter là. Le texte n'est pas... il y a encore une page, mais je vais... Voilà, c'est un texte donc, qui s'appelle « Intérieur rouge » et c'est de Michel Roussel, voilà, qui est un de mes amis.
Merci, Karine. On verra si... Tu vois comment ce texte est porté aussi, ouais. Juste avoir entendu.
J'avais vraiment envie de le partager parce que je trouve que c'est assez beau malgré le tragique et surtout je trouve que c'est on n'entend pas souvent ces mots-là en fait. Qu'est-ce qui se passe après en fait? Voilà, après un drame. Je trouve que c'est voilà, en tout cas un bel hommage d'un enfant à sa mère.
Merci beaucoup. Est-ce que tu voudrais on se dirait quoi? On se dirait une petite chanson encore ou comment?
C'est possible
Margot, une petite chanson, et je pense que du coup on terminera comme ça avec on a peut-être une ou deux actus à énoncer et puis on voit. Ok. Ouais. Merci.
C'était Mara Rodriguez avec Tengo un Trato. Voilà.
Donc on découvre que tu parles espagnol couramment, en fait.
Bien sûr.
Margot.
Oui, ah, entre autres.
Mm-hmm. Ok. Uniquement pour les chansons ou parce que du coup tu arrives à tenir
une conversation? Juste pour me la péter.
Ah, c'est ça en fait.
Parce qu'il faut bien, des fois.
Bon voilà, on va clôturer pour ce soir. On pourrait déborder parce qu'on aime bien les quenouilles débordées, mais là on va s'en tenir aux 59 minutes et 59 secondes. On fait une petite comment on appelle ça avec l'épaule, pas estocade du coup, mais je confonds avec un autre mot quand on donne un petit coup pour
accolade.
Non, ouais, enfin on va dire accolade.
Épaulade.
Du coup. Comment?
Non, je ne sais pas.
Une couillonnade.
Ouais. Épaulade.
Ouais, c'est ça. Vers Quenouille Valentine qui est ce soir à la Maison Lévy à Paris, et pour ceux qui seraient à Paris ou qui vont aller exprès à Paris, demain le jeudi 2 février de 19h à 21h à la librairie Wallonie-Bruxelles, proche des Halles, juste en face des Halles en fait. Il y a une rencontre autour de la revue Papier Machine dont Quenouille Valentine est une cofondatrice. Le numéro 13
est sorti avec le mot couette. Et juste pour vous donner un vrai teaser, c'est encore mieux que d'habitude, parce qu'il y a au moins 4 quenouilles, je pense, qui ont contribué à ce numéro. Donc voilà, mais au-delà de ça, c'est vraiment une super revue. Et puis, un peu en avance, mais voilà, il n'y a pas de... Les dates de manifestation, si on ne les dit pas à l'avance, c'est compliqué aussi, parce que voilà, on a toutes des agendas de ministère. Et donc, le 9 mars, de 17h à 20h, et peut-être avant le 4 mars ou le 5 mars, c'est encore à confirmer, pour une manifestation en soutien à la au dépôt de, en fait je vais lire ce que la pétition, je vais lire ce qui est écrit plutôt que de vouloir improviser. Donc le 4 ou le 5 mars il y aura une manifestation, c'est le début de la campagne nationale pour la défense de la pétition qui a été posée entre autres par plusieurs collectifs de personnes sans papiers. Et on aura, donc il y a eu la pétition We Are Belgium Too, 46 000 signatures, et puis après il y a eu In My Name. Bref, le 9 mars de 17 à 20h, on va mettre ça sur la page Facebook. Il y aura la manif le 4 ou le 5 et une rencontre pour soutenir cette campagne de régularisation. Bref, j'ai un peu mélangé les pinceaux, mais on y arrivera en mettant ça sur la page Facebook. Margot, merci beaucoup pour la technique et l'intro.
Avec plaisir.
Là, merci que nous, Steph, merci que nous, Karine,
avec
merci
plaisir.
Que nous, Maude, merci à moi-même que nous, Milady, et à
merci, Milady.
Au 1er mars, on se croise avec Stratigraphie et vous pouvez nous suivre sur les pages Facebook et Instagram. Ciao les meufs.
Bisous.